With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit, là.
Bonjour, c'est Esther, avec Clémence, ainsi qu'une invitée de marque, j'ai nommé Ophélie Damblé. Coucou.
Salut.
Si tu ne la connais pas, Ophélie officie sur YouTube sous le nom Ophélie ta mère nature. Et cela pour le plus grand bonheur de tes zygomatiques, ainsi que pour celui de la planète. Car oui, Ophélie rend pas à pas le monde, mais surtout la ville, plus verte, à grand renfort de bombes à graines, jardins partagés ou tags en mousse. Pour moi, elle est devenue la queen de la guérilla green sur YouTube. Et d'ailleurs, on peut commencer par là. Qu'est-ce que ça veut dire, guérilla green?
Ah, j'ai cru que t'allais me demander qu'est-ce que c'est d'être une queen. Et j'étais pas prête à cette...
queen de la guérilla green, c'est génial, je veux un t-shirt.
Ouais, grave, je suis hyper flattée. Alors, il faudrait que je raconte ce que c'est la guérilla green.
Peut-être on peut commencer par là, comme ouais, ça après tu nous diras comment t'es arrivée à faire ça.
Ça sera plus simple. Alors c'est un mouvement que j'ai découvert il y a quelques années maintenant, qui est assez vieux au final, qui est né dans les années 70. C'est un groupe de jeunes à New York qui ont décidé de s'emparer d'une friche en plein cœur de Manhattan, si je ne dis pas de bêtises. Donc vraiment un terrain vague, hein, où il y avait rien. À l'époque, dans les années 70, New York, c'était pas très fancy. Et ils en ont fait un jardin partagé, qui est aujourd'hui encore d'actualité, qui existe encore. Et la figure de proue de ce mouvement, c'était Liz Christie. Et j'aime bien en parler parce que c'est une femme qui a lancé le truc et ça fait toujours plaisir de donner un nom sur ce qui s'est passé. Et donc, ils ont décidé de nommer leur mouvement Green Guerilla, puisqu'à l'époque, on était aussi à l'époque de Che Guevara et des guérillas. Et là, c'était une manière un petit peu pacifiste de réemprunter ces codes autour de la guerre, de la petite guerre. Mais là, la version, c'était... le symbole, c'était la bombe de graines. Et puis, c'était de réinvestir des lieux qui étaient complètement abandonnés et de recréer de la vie dessus. Et donc, depuis, en fait, c'est un mouvement qui est très mouvant parce que tu sais pas trop. Il y a quelques figures de proue qui existent encore. Il y a notamment Richard Reynolds en Angleterre. Il y a Ron Finlay à Los Angeles. Mais après, c'est très compliqué de savoir qui fait quoi. Mais c'est ce que j'aime aussi dans ce mouvement, c'est qu'il est très anonyme et c'est plein de petits héros anonymes qui œuvrent chaque jour pour transformer une rue, un quartier, une petite friche. Et avec un ami illustrateur qui travaille dans la BD reportage, qui s'appelle Cookie Calcaire, on a décidé de se lancer dans une bande dessinée autour de ce sujet. Et comme moi, je travaille déjà dans l'agriculture urbaine, j'avais quelques notions sur ce que c'est la nature en ville. Donc on a décidé de repartir un peu sur l'histoire du mouvement. Et puis je suis allée aussi à la rencontre de pas mal de gens aujourd'hui à Paris et en France qui mènent des actions. Et c'est passionnant comme mouvement parce que tu te sens vraiment... tu reprends un peu pouvoir sur la ville qu'on a tendance à subir souvent. Et là, moi, quand je jardine dans l'espace urbain, j'ai une espèce d'empowerment qui me prend et qui est génial.
Juste pour revenir sur les modes d'action de la guérilla green, parce que t'as parlé de bombe de graines.
Ouais.
Autant je vois le concept de poser une bombe dans un bureau de poste le lendemain, ça fait la une de tous les journaux.
Ouais.
Je suis pas d'accord, mais je comprends le concept. Autant la bombe de graines, le temps que ça pousse et que ça produise des effets, c'est long, non?
Alors, la bombe de graines, c'est avant tout un symbole. Hein. On en parle beaucoup quand on parle de green guérilla, mais c'est pas que ça. Hein. La green guérilla, il y a plein d'autres modes d'action. Après, c'est vrai que c'est un chouette symbole, puisque l'idée, c'est de la balancer et puis de revégétaliser des lieux. L'idée, c'est que c'est de l'argile, de la terre et des graines. Et alors, pourquoi on s'emmerde à faire ça? C'est parce que, en fait, quand tu vas mettre ta graine dans cette argile et cette terre, ça va recréer les conditions idéales pour qu'elle ait plus de chances de germer. Parce que si tu fais l'expérience de balancer des graines comme ça, un peu à l'arrache sur de la pelouse, tu peux être sûr qu'en 10 secondes, t'as 40 pigeons qui rappliquent, et puis alors tes graines, tu les verras plus jamais. Donc c'est aussi un moyen déjà d'arriver à les faire germer d'une meilleure manière. Et puis il y a aussi ce truc de pouvoir les balancer dans des lieux difficiles d'accès. Donc ça c'est pas mal. Et après, c'est les bombes de graines, c'est aussi un truc qui est utilisé dans plein de civilisations pour revégétaliser des lieux. Tu as aussi eu des campagnes de revégétalisation via des bombes de graines qui étaient balancées par avion.
Sur les toits.
Non, pas. Enfin, là, je parle de manière générale pour revégétaliser, je sais pas, une forêt, par exemple. Et ben, t'as des raids d'avions qui balancent des bombes de graines parce que c'est beaucoup plus facile que juste la graine. Enfin, ça protège en fait la graine.
Ouais, mais moi, j'aimerais bien que tu détailles un petit peu les autres aspects que ça recouvre la guérilla green, parce que c'est pas juste des bombes de graines.
Non, c'est ça. On va pas épiloguer sur les bombes, mais c'est vrai que, alors, il y a plein d'avantages à faire de la green guérilla. Il y a d'abord, réinvestir l'espace. Et alors, moi, j'ai une vision très écoféministe de ça. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on stationne très rarement dans la rue, au risque de se faire emmerder. Et donc, on a tendance à traverser cet espace, mais à jamais trop y rester. Et pour moi, jardiner, c'est aussi se réancrer, c'est reprendre sa place, se réenraciner dans cet espace qui n'a pas été conçu par et pour nous. Donc il y a d'abord cette dimension un peu activiste, politique, féministe que j'aime bien. Mais de manière plus générale, c'est d'abord participer en tant que citoyen à la protection du vivant, puisque quand tu végétalises, tu participes à la réduction des émissions de CO2, tu vas faire revenir un peu de la biodiversité, tu vas la protéger aussi. Et puis, il y a l'aspect thérapeutique aussi des plantes. On sait très bien qu'un espace qui est plus végétalisé, ça déstresse les gens. Il y a des vraies vertus thérapeutiques qu'on reconnaît aujourd'hui. Et il y a vraiment un autre aspect que je trouve très, très important, c'est l'aspect recréer du lien social. Parce que c'est vrai qu'en ville, on est dans des espaces qui sont, très individualistes. On ne se parle pas, chacun est dans son délire. Moi, je suis la première à être la vraie connasse de Parisienne, tu sais, qui a ses écouteurs et qui ne regarde pas les gens et qui trace. Et en fait, quand je jardine, je change complètement ce truc-là. Et j'apprécie qu'on vienne me parler. Il y a un échange qui se fait. Et on n'est plus du tout dans cette dimension de drague ou d'opportunisme. C'est que les gens sont vraiment curieux de voir ce que tu fais. Et je pense qu'il y a un truc où les gens captent tout de suite que tu fais un truc pour eux aussi, pour la communauté. Et il y a une sorte de bienveillance. Alors, pas tout le temps, hein, tu peux tomber aussi sur un poivreau. Mais c'est rare. Dans l'ensemble, c'est plutôt des réactions très bienveillantes, curieuses, et parfois même de gens qui finissent par t'aider. Au bout de 5 minutes de discussion et qui se mettent à désherber avec toi et tu recrées un échange qui est très simple parce que les plantes, je crois que c'est comme la bouffe où il y a un rapport où on n'a pas besoin d'être des experts en fait pour faire, et c'est ça que j'aime bien, que je trouve très important dans la green guérilla, parce que à contrario de l'agriculture urbaine qui est pour moi indispensable hein, évidemment en ville, mais qui est réservée qui n'est pas accessible à tous, ne serait-ce que parce que les fermes urbaines, elles sont souvent sur les toits, donc elles ne sont pas accessibles à tous. Les produits qui sont vendus, ils ne sont pas accessibles à tous. Et là, la green guérilla, c'est dans l'espace public. Donc c'est vraiment, tu peux aller dans des zones qui au contraire ont été abandonnées par les pouvoirs publics, où il n'y a plus grand chose, et c'est vraiment les citadins, les habitants du quartier qui se réemparent de ces lieux. Et j'aime bien ce truc-là aussi de désobéissance civile, qu'on n'oublie pas qu'on a notre pouvoir aussi d'agir chacun. Et c'est bien beau de réduire ses déchets chez soi, je trouve ça très important évidemment, mais là on parle vraiment d'un lieu commun, quoi. Et je crois vraiment à la toile d'araignée. Quand tu commences à poser un bac en bas de chez toi, bah peut-être que la première semaine, ça va être détruit, mais la deuxième semaine, bah peut-être qu'il y a quelqu'un qui aura envie de faire la même chose, etc. etc. quoi.
Juste pour que je comprenne bien, ça veut dire que tu jardines sur des espaces qui ne sont pas forcément prévus pour, c'est-à-dire
Exactement.
Que tu n'as pas forcément le droit... T'as pas forcément le droit de
faire
ce que tu fais.
Oui, c'est complètement illégal. Et c'est aussi ce qui fait que c'est fun. Parce que je trouve qu'il y a un esprit un peu consensuel. Et puis un peu, genre, les écolos, c'est le monde des bisounours. Ils mangent des graines et ils se font des couronnes de fleurs. En fait, pas forcément. On peut aussi être méga tuck life. Et moi, j'aime bien cette dimension rebelle, même liée à la street culture. Puisque en fait, tu te réempères d'un espace comme pourrait le faire un mec qui fait du graff, ou un mec qui fait du skate, ou une meuf qui fait du skate. Et j'aime bien ce truc-là un peu plus rude, un peu plus... genre, on y va. Et puis, en fait, moi, j'en ai marre. Enfin, c'est bon. En fait, on a bien compris qu'il ne fallait pas attendre qu'on nous demande de l'autorisation pour faire des choses. Enfin, moi, je déteste ça, qu'on attende de se faire prendre par la main. Et c'est comme... On peut le mettre en lien aussi avec le harcèlement de rue, par exemple. C'est à partir du moment où tu décides de plus te poser en victime du truc et que tu dis, ok, bah en fait non, moi je veux plus subir la ville, j'en ai marre du béton. Bon, bah moi j'ai pas pour l'instant l'envie ni les moyens de partir au fin fond de l'Ariège, monter ma ferme. Enfin, même c'est pas du tout mon délire. J'ai envie de profiter de la ville parce qu'à côté de ça, c'est des lieux qui sont géniaux, quoi. Justement pour créer des projets, aller voir des expos, des concerts. Donc j'ai plus envie de subir, et ben je vais faire en sorte que ça change.
Et à quel moment t'as décidé ça, que t'avais plus envie de subir ça, ou ça a toujours été comme ça, genre dans ta vie, quand t'étais enfant, t'as jamais été trop obéissante, ou c'est quelque chose qui s'est fait sur le tard?
C'est un long process. Moi, c'est sûr que depuis ado, j'ai des groupes de musique. Alors, vous allez trouver le rapport dans quelques instants. Non, mais j'ai pas mal évolué dans le milieu punk, garage, et j'ai toujours eu des groupes depuis l'âge de 16 ans. Et donc, j'ai vraiment appris... J'ai eu que des groupes de meufs aussi. Et il y a 13 ans, 13, 14 ans, les groupes de meufs, il n'y en avait pas beaucoup. Et il fallait un peu jouer des coudes et s'affirmer. Et c'était féministe sans que je le sache. Mais il y avait ce truc de... Pas attendre qu'on me prenne par la main pour faire un truc. Et moi, j'ai monté des groupes comme ça, tu vois, juste parce que j'avais envie avec mes copines de faire du punk. Et ensuite, j'ai monté un webzine qui s'appelait Retard Magazine aussi, avec des copines, où là, pareil, on avait ce truc où on voulait dire que si tu veux, tu peux. Et qu'il faut pas, voilà, attendre qu'on te dise que tu peux pour le faire. Et donc en fait, j'ai toujours eu ce truc depuis 13-14 ans, de, en fait, si j'ai une idée à la con, faut pas que j'attende d'avoir toutes les connaissances ou même tout le matos pour pouvoir le faire. Et je pense que ça m'est vraiment resté. Mais comme là, tu vois, quand je me suis reconvertie, en fait, ce qui me reste à chaque fois, c'est pas les enseignements que j'ai eus, vraiment. Alors, c'est toujours bien, faut lire des livres et tout ça, n'oubliez pas. Mais, mais c'est d'abord les rencontres, et puis c'est vraiment de faire, en fait. Et c'est les erreurs aussi. C'est quand tu te foires, que tu dis, ok, bah, ça, plus jamais. Et en fait, c'est vraiment... Moi, j'ai toujours appris sur le tas. Tous les métiers par lesquels je suis passée, j'ai appris sur le tas. J'ai arrêté les études après une licence. Donc, à 20 ans, j'étais dans la vie active. Et ce truc de, ok, bah, c'est pas grave, on va apprendre, on va regarder des tutos et on va se débrouiller, quoi. Et ce truc, dans la Green Guerilla, c'est pareil, on n'a pas besoin d'être un expert, on n'a pas besoin ni même de matos. L'idée, c'est vachement d'être dans la récup, au niveau des outils, des bacs, même des plantes, on va aller les chercher dans les poubelles, etc. Et j'aime bien ce truc de, on n'a pas besoin de thunes, il faut juste être un peu créatif, quoi.
Tu as abordé ta reconversion ? Oui. Tu l'as glissé comme ça au passage. Hop, on n'a pas eu le temps d'en... peut-être qu'on peut revenir là-dessus un petit peu, parce que tu me dis, si je me trompe, c'est ce qui t'a mené aussi vers la Green Guérilla.
Oui.
C'est le moment où tu dis qu'avant tu bossais dans la com et t'as décidé de tout jeter.
Tout à fait. Alors oui, moi, je suis un gros cliché.
Est-ce qu'on peut repartir de la licence du coup ? C'était quoi comme licence ?
Alors il va falloir que je fasse mon CV, c'est ça ? Ça va être le bordel. Hein,
On va prendre un point de départ. Je propose un point de départ, un point intermédiaire, okay. Et comme ça on comprend l'arrivée.
Alors, à l'âge de 17 ans, je suis partie à Paris. Tu sais, là, je suis montée à la capitale parce que je viens du sud. Donc j'ai fait des études dans le cinéma et le théâtre. Et j'avais mes groupes de musique à côté. Puis la musique a pris pas mal le pas sur le théâtre. Parce qu'à l'origine, je voulais être comédienne. Et oui, le grand classique.
Comme tout le monde.
Voilà, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que le milieu de la musique était vachement plus fun. Donc j'ai vachement bossé là-dedans. J'ai bossé en maison de disques. Et puis après, j'ai un peu bifurqué sur le monde des médias. Donc j'ai fait chroniqueuse radio. J'ai fait de la voix aussi un peu en tant que comédienne voix. On a monté Swebzine aussi, où on faisait pas mal de booking d'événements. Et puis, j'ai fait pas mal de jobs de merde aussi. Hein. Enfin non, pas de merde, des jobs alimentaires et qui ne m'épanouissaient pas beaucoup. Mais donc vendeuse, serveuse, etc. Mais c'était pas ma vocation. Donc,
Mais ça payait le loyer.
Mais ça payait le loyer, contrairement aux piges.
Regarde le même rire. Voilà, tu sens comment...
Voilà.
Nous, on fait fortune, je vois de quoi tu parles.
Ah bon? Anyway, et puis mon dernier job en date, qui là pour le coup était bien payé pour l'une des rares fois de ma vie, ça a été dans une agence de pub, où là je m'occupais des réseaux sociaux et puis un peu des contenus événementiels, j'assistais la directrice de com. Donc l'une des rares fois de ma vie où j'ai pu mettre de l'argent de côté, et c'est vrai que ça a été un super passage, j'ai aucun regret là-dessus, parce que bon, déjà je suis rentrée un peu dans l'antre de la bête. Pour les écolos, tu vois, c'est un peu intense ça, d'aller bosser dans une agence de pub. Et en même temps, j'ai pu y rencontrer plein de gens super intéressants et gentils, quoi. C'est pas le diable. Et puis, au moment où j'ai négocié ma rupture conventionnelle, alors oui, parce que, bon, du coup, ça faisait déjà quelques années que je réfléchissais à ça, à l'écologie, au fait qu'on est quand même un peu en dissonance entre... sa vie de citadin à 100 à l'heure, et puis tout ce qui se passe sur nos sols en termes d'agriculture. Enfin, c'est ça.
Comment tu as eu cette prise de conscience là ?
Pour moi, il y a deux rythmes différents. Il y a cette longue prise de conscience de plusieurs années, et je dirais bien 4-5 ans vraiment de lecture. Moi, c'est vraiment passé par la bouffe parce que j'adore manger et j'aime la nourriture saine. Enfin, j'avais envie de manger des bons produits. Et quand tu as envie de savoir comment c'est fait, ben, hein, tu rentres dans une espèce de vortex d'infos hyper anxiogènes. Et puis, tu te rends compte que la situation des agriculteurs, elle est terrible, que nos terres deviennent complètement infertiles, qu'on est sur des enjeux qui sont très graves, quoi. Donc ça m'a profondément angoissée, mais c'était lent, quoi. Et puis, mais ça devenait de plus en plus intense. Et en fait, c'était génial aussi de bosser dans une agence de pub, parce que là, on est sur des enjeux au quotidien qui sont tellement hors réalité. On est sur des budgets indécents, on est sur des problématiques absurdes, tu vois, en termes de choix, de couleurs, de trucs, alors qu'en fait, on verra même pas ça au final. Enfin, tu sais, on est sur une absurdité où même, moi, c'était prendre 2 heures par jour le métro pour aller à Boulogne. En fait, j'étais en telle dissonance que c'est ça aussi qui m'a poussée. Enfin, parfois, il faut aller... C'est pour ça que d'aller mal, c'est... Alors, sur le moment, c'est chiant, mais en fait, c'est des moments aussi où tu reprends une sorte de pulsion de vie. Et tu te dis, ah, c'est bon là, plus jamais quoi. Plus jamais je veux ça dans ma life. Mais il faut l'avoir connu pour plus en avoir envie quoi. Si c'était un long pas, enfin, un parcours semé de petits oiseaux et de. Ça marcherait pas quoi. Donc voilà, agence de pub. Mais le deuxième déclic, vachement plus violent et beaucoup plus efficace, ça a été ma rupture avec mon mec de l'époque. Où là, c'était. Ça faisait plusieurs années qu'on était ensemble et. Et en fait, t'es tellement mal aussi que, pareil, t'es dans une pulsion en fait, où t'as besoin de changement, t'as besoin vraiment de passer à autre chose, de rentrer dans un nouveau cycle. Et moi, ça a été du coup très brutal, quoi. J'ai vraiment genre, allez, on se sépare avec mon mec. 2 mois après, je négocie ma rupture conventionnelle. Et j'ai été hyper encouragée par mon agence. Ils étaient tous ravis que je parte pas dans la concurrence, mais que j'aille me élever des chèvres, parce que c'est le fantasme de tout pubard qui se respecte. Et non, mais vraiment, j'ai été hyper... Enfin, je me suis sentie soutenue par tous mes potes aussi.
Ouais, t'as pas rencontré de résistance de gens qui t'auraient dit que tu faisais un mauvais choix ?
Non. Non, je pense que... Alors, je suis bien entourée, je pense. Et puis, il y a une sorte de... C'est plus comme il y a 10 ans, quoi. Là, il y a une sorte d'urgence aussi. Je pense que tout le monde sait qu'on on est dans la merde et qu'il faut changer. Donc, non. Je me suis... Voilà. Et donc, après, je suis partie me former.
Où ça ? Pour faire quoi ? Apprendre ?
Alors, je suis partie d'abord dans une formation qui s'appelle la Ferme Sainte-Marthe pendant 2 mois et demi. Où là, c'était à la fois de la théorie et de la pratique. Donc, c'était au fin fond de la Sologne. Et donc, chaque jour, on pouvait étudier de manière très théorique le cycle de la pomme de terre et savoir comment lutter contre certaines maladies ou certains ravageurs. Et puis, l'après-midi, on avait aussi des choses très pratiques. Et notamment, un truc qui, m'a vachement marqué, c'était qu'on était tous responsables d'un lopin de terre. Donc, c'était 30 mètres carrés. Donc, c'est pas énorme, mais sur lequel on pouvait faire ce qu'on voulait. Alors, on était un peu accompagnés quand même par des jardiniers formateurs. Mais moi, ça a été vraiment la cour de, le terrain de jeu. Parce que pour une fois, je pouvais y faire... Enfin, vraiment, en fait, on apprenait chaque jour. Et moi, j'y allais 1 heure avant de commencer, entre midi et 2, le soir. Et je trouvais que, en fait, tu vois chaque jour ton jardin évoluer... Et c'est ce qui m'a le plus plu. Alors qu'au final, j'aurais pu faire ça chez mes parents, hein. Mais quand j'étais plus jeune. Mais bon, il a fallu que je sois dans ce cadre de formation pour me lancer. Et après, j'ai fait du woofing. Le woofing, ça, c'est ce que je conseille souvent aux gens qui ne savent pas trop comment se lancer ou est-ce que ça leur plairait vraiment. Le woofing, c'est génial parce que...
Explique ce que c'est que le woofing.
Ouais, c'est une organisation internationale qui met en lien des agriculteurs bio et puis des gens comme vous et moi, pour aller travailler chez eux. Donc, en l'échange de 5 à 6 heures de travail par jour, tu as le gîte et le couvert offert. Et je trouve que c'est un très bon moyen, déjà de voyager pour pas grand-chose. Après, c'est un peu de boulot, mais c'est vraiment un super moyen de se mettre en condition réelle et de voir si tu es capable, même ne serait-ce que physiquement, de gérer l'activité. Et puis, tu te rends compte aussi que chaque ferme a sa particularité. Donc, un type de terre, un type de... Et puis, des techniques très différentes. Et je trouve que c'est un très bon moyen de faire un tour d'horizon de ce qui peut nous plaire ou pas. Et moi, typiquement, je me suis rendu compte qu'en maraîchage, j'ai putain de mal au dos et aux genoux. Et que c'est hardcore, hein, physiquement. Et je savais que dans l'agriculture urbaine... notamment, c'est beaucoup plus de choses à la verticale. Et donc, tu es beaucoup plus souvent debout, par exemple. Et c'est quelque chose qui me correspond mieux. J'ai un profond respect pour les maraîchers, parce que pour les agriculteurs, en règle générale, c'est l'un des métiers les plus nobles. Et en même temps, putain, les gars, à 50 ans, ils sont rouillés, quoi. Et on devrait, je pense, dans tous les centres de formation d'agriculteurs, leur imposer le yoga, quoi. Parce que c'est vrai qu'au niveau des postures, c'est intense, quoi.
Mais ça allait être ma question suivante. Comment tu passes d'un job de bureau à Paris, où certes tu fais 2 heures de métro, mais on est dans des environnements aseptisés, climatisés, tout ça, à travailler la terre physiquement, effectivement. Enfin,
ouais.
Est-ce que c'est toi, avec tes problèmes de santé ou tes problèmes physiques à toi, qui fait que c'était pas pour toi de faire du maraîchage ? Ou est-ce que c'est un truc que t'as pu observer autour de toi avec les gens qui se formaient ? Le choc est vraiment rude.
Ouais. Alors non, on n'est pas très égaux face à ça. Alors moi, j'ai de la chance parce que j'étais déjà très sportive et j'ai une sorte d'endurance quand même. J'ai pu m'en sortir. A contrario, de gens qui se reconvertissent à 50 ans, gros respect, et qui souffrent peut-être plus. Et parfois d'autres non. Hein, y en a qui ont 50 ans et qui ont une pêche incroyable et où tu te sens très 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 vieille et très voilà. Mais oui, c'est intense. Après, c'est rigolo, mais moi, j'ai plus de souvenirs du moment où j'ai vraiment bossé en agence de pub. Où... Alors, en fait, avant, j'étais freelance, donc j'étais habituée à bosser dans les cafés, à bouger, à faire ma vie. Et là, d'avoir été en bureau la dernière année avant de bouger, j'avais des fourmis dans les jambes, je voyais flou, enfin, je sentais que j'étais pas du tout adaptée. J'ai dû m'acheter une boule de pilates pour remplacer ma chaise, juste pour pouvoir gigoter toute la journée, parce que je sentais que j'étais trop immobile et que ça me rendait folle. Donc non, au contraire, ça a été une certaine libération. Après, c'est sur la longueur où, en fait, effectivement, quand t'as passé 8 heures dans un champ, putain...
Tu dors bien,
mais t'as mal au dos. Enfin, l'heure de yoga, ensuite, elle est indispensable, quoi. Et... Donc ouais, c'est pas facile. Est-ce que j'ai répondu à
la
question ?
Oui, absolument. En fait, je voulais juste que tu développes un peu plus cet aspect-là, parce que je voudrais pas donner l'impression que... Enfin, je voudrais pas qu'ensemble, on donne l'impression que la reconversion...
C'est le monde des bisous, c'est formidable.
Voilà, c'est trop bien. Avant, je travaillais 80 heures par semaine dans les agences de pub, et maintenant, je cultive la terre sous le champ des oiseaux.
J'ai une copine journaliste qui était à fond, qui fantasmait à balles sur le métier de fleuriste. Et qui a fini par se trouver un petit stage d'une semaine. Voilà, on peut commencer aussi par des trucs comme ça. On n'est pas obligé de partir comme moi à l'arrache pendant 2 mois et demi, pendant 6 mois. Elle s'est lancée dans un petit stage comme ça. Et en fait, à l'issue de ça, elle s'est rendue compte qu'elle était incapable de bosser debout toute la journée, que son corps n'était pas adapté, que ça la faisait chier, qu'elle n'était pas bien, quoi. Et elle a du coup décidé de ne pas faire ce métier. Mais il faut aller se confronter à ce réel-là. Parce que physiquement, oui, en fait, quand on passe à des métiers comme ça, on est quand même amené à soulever des charges lourdes. C'est pas anodin, quoi.
Et autant, je pense que tu peux aller... sur nos jobs à nous, de rédaction, de journalisme, etc., quand t'as une petite crève, bon, tu vas pas au bureau pour pas contaminer les collègues, mais t'arrives à bosser, tu
c'est
vois.
C'est ça.
Quand t'as une petite crève et que tu dois passer 8 heures dehors.
Quand t'es dehors sous la flotte. Alors, c'est ce que j'ai appris aussi dans le travail de la terre, c'est que parfois, il faut aussi accepter les choses. Moi, ça m'a redonné un peu une forme d'humilité et de rapport au temps. Vachement moins impatient. Je suis quelqu'un assez hyperactif et impatient. Et en fait, il y a un moment où, en fait, quand les éléments sont contre toi, que ce soit la météo ou même les insectes, ou même toi, justement, ton corps qui ne veut pas, il faut accepter. Il ne faut pas se battre. On n'est pas dans la même immédiateté que, justement, dans les travaux de bureau où tu dois répondre à un mail en 10 minutes. Là, en fait, ça t'apprend vraiment à accepter que tu contrôles pas, que c'est la nature qui contrôle les choses et que toi, t'es rien à côté de ça. Et ça m'a assez calmée par rapport à ça. Maintenant, quand j'ai des emmerdes, je le prends avec plus de... Je dirais pas de sagesse, mais...
de philosophie.
Ouais, voilà. De résilience.
Moi, j'ai une question parce que je trouve que quand on parle d'écologie, etc., en fait, on peut parler de plein de choses différentes. Et je me demandais ce qui t'a mené spécifiquement vers l'agriculture, le maraîchage, le travail des plantes et du végétal. Alors que c'est pas forcément évident, je pense, pour tout le monde de se dire, de se dire, moi, je veux me reconvertir, ça va être dans ce domaine-là, quoi.
À l'origine, moi, l'agriculture, c'était un peu flou pour moi, mais vraiment le truc qui m'a porté, mais même avant cette reconversion, c'est l'autonomie, vraiment, à tous les niveaux. J'essaye d'être le plus indépendante possible. Et en fait, se nourrir, c'est l'un des trucs les plus... Enfin, on va dire que c'est l'un des besoins les plus primaires, avec boire et avoir un toit sur la tête, je pense. Et de me rendre compte qu'en fait, j'étais pas capable de répondre à ce besoin le plus primaire par moi-même, ça m'a profondément angoissée, en fait, de me dire, putain, en fait, je sais pas faire pousser quoi que ce soit, quoi. J'avais un vieux cactus chez moi, j'avais des plantes vertes comme tout le monde en intérieur, mais j'ai jamais... j'ai vu ma grand-mère faire pousser des haricots dans son potager, je me suis jamais penchée sur le truc, sur les techniques, et vraiment, de pas répondre à ça, alors que j'adore manger... C'est un truc auquel je pense très régulièrement, c'est-à-dire 3 fois par jour au moins. ça, c'était insupportable en fait. Et ce truc, mais putain, mais je suis une pauvre meuf quoi. Alors oui, organiser des teufs, ça a aucun souci. Mais alors par contre, manger une courgette, alors là, il y a plus personne quoi.
Faire pousser la courgette.
La faire pousser, oui, parce que la manger, ça c'est facile. Mais non, la faire pousser. Donc ouais, moi c'était ça. Et ça me suit encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la Green Guérilla, par exemple, tu vas faire pousser de l'ornemental et le comestible finalement, bon. Je déconseille parce que les sols sont quand même très pollués, mais ce truc de montrer aux gens en fait comment ça pousse, cet aspect vraiment pédagogique en fait, et puis en fait tu te rends compte que sur un balcon il y a plein de choses que tu peux faire pousser. Alors il y a les aromatiques, mais tu peux te lancer dans les salades, les tomates cerises, ça pousse sans souci. Enfin, il y a plein de petites choses, ou même les fleurs comestibles. Enfin, se réapproprier un peu aussi ce savoir. Quand on sait, en plus de ça, qu'il y a un vrai lobby, une volonté de contrôle aussi de notre nourriture. Hein. Donc je parle des semences paysannes, en fait. Il faut savoir que les graines, il y a un certain nombre de graines qui sont inscrites sur un catalogue européen. Et le reste, c'est pas autorisé à la vente. Et donc, on passe à côté de plein de variétés de légumes. Il y en a des tonnes. Enfin, quand on pense qu'une courgette, c'est forcément vert. Et non. Surprise, il y en a de plein d'autres couleurs. Et moi, ça m'a révolté aussi de savoir que, en fait, on nous conditionne pour avoir un type de produit. Et puis, enfin voilà, on passe à côté de plein de variétés qui sont en train de mourir, qui sont en train de disparaître, alors qu'elles ont des qualités nutritives hyper intéressantes, qui sont belles. Enfin, pour moi, ça aussi, c'est l'extinction de la biodiversité, quoi. Et enfin, c'est insupportable pour moi. Je veux pas, pareil, je veux pas participer à ça. En fait, maintenant que je sais, c'est ça le truc. C'est quand tu rentres dans un truc où tu lis des bouquins, tu lis des articles, des machins, tu sais, ben, tu peux plus continuer à vivre avec, quoi. C'est quand tu sors de l'ignorance, tu rentres dans une souffrance en fait de rester inactif.
On peut revenir juste un instant sur les semences.
Ouais.
Qui contrôle ? Qui décide en fait ? Qui décide qu'est-ce qu'on a le droit de planter ou pas ? Et qui vient contrôler ce que tu plantes ou pas ?
À ton avis ? Alors, pense qu'il y a des personnes de type très vieux et très riches qui ont envie de contrôler. En fait, le problème, c'est que rien n'est fait pour rendre autonomes les paysans. L'idée, c'est que chaque année, les paysans se retrouvent bloqués et doivent acheter leurs graines ou leurs plants pour les faire pousser et que ça donne des légumes. L'idée, c'est que, en fait, les semences dont je parle, c'est des semences qui sont reproductibles. Et c'est là où, en fait, l'agriculteur retrouve une forme d'autonomie. C'est que chaque année, il va pouvoir récupérer ses semences et les refaire. Et tout est mis en place pour que ça n'arrive pas. Et
pour qu'ils doivent les racheter.
Voilà, exactement. Okay. Et en fait, on a créé des semences qui, si tu les fais se reproduire l'année suivante, vont être, on appelle ça les semences hybrides. Donc l'année suivante, elles vont être un petit peu, mal formées ou un peu mutantes, quoi. Elles seront moins productives, etc. Et
elles sont designées entre guillemets pour ne pas être
voilà, elles ont été transformées,
okay,
pour correspondre à un certain calibre, une forme de régularité, etc. Sauf qu'elles sont pas reproductibles.
D'accord.
Et
donc chaque année, essaye de les reproduire toi-même, ça va te décliner, ça va pas
voilà,
marcher.
Voilà, ça va être défaillant, quoi.
Okay. On essaye vraiment de préparer une famine mondiale, c'est ça le projet en fait.
Me demande.
Ok.
Bah tu sais, ouais.
Ok, maintenant peut-être, moi je pose des questions, bien. Moi je fais mon travail de journaliste, je pose des questions.
Ouais. Après c'est mon point de vue, mais je pense qu'on est peut-être là-dessus.
Je crois que je viens de toucher la frontière de l'absurde du capitalisme. Moi je comprends la logique du capitalisme, je comprends la logique d'un système qui tu produis, tu dégages des profits, tu réinvestis, tu récupères les profits.
Ouais,
je comprends la logique en fait, mais appliquer à la semence,
à l'eau ou à la nourriture,
appliquer
c'est mortifère.
Voilà, appliquer à l'eau, à la nourriture,
à la santé,
qu'on respire,
c'est mortifère.
Ouais, aussi. Mmh. Et j'ai du mal à comprendre qui c'est qui pilote. Enfin, comment est-ce qu'on se rend pas compte que
on
ça n'est pas
ouais.
possible en fait d'appliquer cette logique à ces domaines-là. Enfin, que c'est nous qui sommes dans la merde à la fin.
Et là, on parle des semences, mais c'est le même souci pour les plantes médicinales. Le métier d'arboriste n'est plus reconnu en France depuis les années 40. Les plantes médicinales, c'est pareil. Il y a un certain nombre de plantes qui sont inscrites sur un catalogue. Voilà, on te donne l'autorisation, mais pour le reste. interdit. Donc en fait, les producteurs ou même les vendeurs, les arboristes, se retrouvent dans des failles juridiques ou même dans des prises de risques par rapport à leur métier, où ils bossent dans l'illégalité pour continuer de donner accès aux gens à des plantes qui soignent, quoi. Et à votre avis, ça vient d'où tout ça ? C'est pareil, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes personnes.
J'étais loin de soupçonner que faire pousser des légumes était à ce point politique.
Et ben ouais, en fait. Moi, je me sens... en fait, j'ai l'impression de faire de la politique, quoi, quand je jardine. C'est clair. C'est beaucoup plus que... Alors, il faut voter, c'est très important. Mais...
planter des graines aussi.
Mais planter des graines, c'est un acte hyper militant, au final. Mais c'est fun aussi, hein. Faut pas oublier, c'est hyper fun. Non, mais ça, c'est vrai. Alors, ça, c'est un truc sur lequel... c'est très important pour moi, mais la Green Guérilla... typiquement pour moi c'est une manière aussi très fun de se lancer parce que l'écologie ça peut être un mouvement assez anxiogène parce que justement on est criblé d'injonctions aussi, hein. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, ça c'est mal, ça va détruire la planète, etc. Alors oui, mais il faut faire attention aussi parce que les gens peuvent être très vite paralysés et moi la première, hein, quand je lis un peu trop de choses là-dessus, je suis en PLS pendant 48 heures et en fait ça n'a servi à rien d'être en PLS. Donc pour moi, mais je trouve que les médias ont un rôle important aussi à jouer là-dedans. C'est-à-dire que montrer que c'est la merde, c'est bien, mais à côté de ça, pour moi c'est 50-50, il faut aussi montrer les solutions à hauteur, quoi. Parce que sinon les gens sont juste déprimés et puis disent, bah de toute façon... que je fasse un truc ou pas, ça change rien. Alors que c'est faux. En fait, il y a plein d'initiatives citoyennes, même petites, qui ont des répercussions énormes, quoi. Donc la Green Guérilla, c'est aussi dire, les gars, en fait, balancer une bombe de graines, c'est pas que pour sauver la planète, hein, mollo, c'est parce que c'est super fun. Mais moi, je kiffe trop. Je me suis acheté un comment on appelle ça ?
Lance-pierre.
Un lance-pierre. Et je m'éclate avec. Ça ne sert à rien. Hein. C'est juste pour le style. Mais qu'est-ce que c'est le kiff, en fait ? Donc, il y a vraiment une dimension fun. Il faut que ce soit un terrain de jeu, en fait. En fait, c'est bon, là. On a compris que c'était la merde. Bon, ça y est, il faut faire aussi l'accepter, faire le deuil de ça. Et puis, se faire kiffer, quoi.
Ah non, mais je te rejoins complètement là-dessus. Enfin, moi, ça a été aussi ma démarche dans une certaine mesure dans les sujets que je traite, parce que on parle d'écologie, mais en droit des femmes, c'est pas forcément plus joyeux le reste du temps non plus. On parle quand même surtout des trucs qui vont mal. Et en fait, moi, à force de parler que des trucs qui vont mal, je déprime et j'ai PLS, pareil.
Ouais.
Voilà. Je finis dans mon canapé devant un film à essayer de ne plus penser au monde réel et voilà.
Donc mais c'est vrai qu'on en parle depuis ces derniers temps là. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la
parole. Vas-y.
Non, mais c'est un truc que j'ai pas mal lu, l'épuisement du monde militant. Et c'est vrai, hein, que ce soit au niveau des féministes, des écologistes, alors que c'est un putain de truc d'endurance en fait. C'est sûr, hein, qu'il y aura toujours des détracteurs, que ce sera toujours la merde. Hein, on a quand même un gros boulot encore devant nous, donc il faut être endurant. Et c'est ça, il faut pas se laisser aller à ce truc de
ouais, en fait, d'abattement. Je pense que t'as besoin de trucs positifs aussi, et effectivement, mais même la manière dont tu transmets ça, toi, parce que du coup, on n'en a pas encore parlé vraiment, mais tout ce que t'as appris, tu le transmets aussi via YouTube. Et ben en fait, tu le fais de manière tellement drôle, genre franchement, on se marre, quoi. C'est pas du tout moralisateur ou paralysant, justement. C'est genre, moi, quand je regarde tes vidéos, je suis là, ouais, grave, j'ai grave envie d'aller faire un tag en mousse
yes
sur le mur de ma rue, putain.
Yes.
Oui. Quand vous voulez.
Trop bien. Alors, pour tout te dire, dans les coulisses, il y a parfois des vidéos que je tourne où une heure avant, je suis en train de chialer parce que je viens de lire un article qui m'a déprimée. Mais par contre, c'est vraiment une discipline que je me donne. C'est, putain, tu ne montres pas ça à la caméra. Alors l'idée, c'est pas de montrer que c'est le monde des bisounours. C'est juste, en fait, faut faire, quoi. Faut faire et faut s'amuser. C'est pas grave si juste avant, t'y croyais pas au fond. Mais c'est comme se lancer dans le sport, je trouve. T'sais, avant de te motiver à aller à la salle de sport, t'es là, ouais, bon, je sais pas, je suis pas convaincue. Et puis t'y vas, et puis après, t'es super content d'avoir fait ton truc. Et là, c'est pareil. Parfois, je suis, putain, il est dimanche, je suis en gueule de bois, j'ai pas du tout envie d'aller jardiner. Mais je vais le faire parce que j'ai une vidéo à sortir. Et en fait, à l'issue de cet après-midi, j'ai passé une après-midi formidable. J'ai vraiment fait un truc, je me suis sentie utile. Et en fait, c'était hyper valorisant. Ça fait vachement de bien à l'ego, quoi. Et ouais, donc, mais c'est limite une discipline pour moi. C'est genre, stay focus, Il y a un truc, il y a un bouquin là dont je parle à tout le monde en ce moment, mais qui m'a vachement marqué. C'est comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes. Et il y a un passage qui m'a vachement marqué et qui disait que l'humour, c'est l'une des armes les plus puissantes parce qu'elle elle démantèle la peur. Et on peut, pareil, le mettre en lien avec les violences policières aujourd'hui. Je pense que la meilleure des réponses, c'est pas nous de sortir les armes, parce qu'on en a pas beaucoup, hein. Mais au contraire, d'essayer de décrédibiliser en fait tout ça. Et je pense que l'humour, mais c'est d'une puissance, quoi. Et donc je trouve ça très très important en fait que tous les qu'il y ait des créateurs de contenu aussi qui s'attelle à des sujets hardcore, mais en version fun, parce que sinon, en fait, t'as envie de te tirer une balle, quoi. Ou alors t'as envie de devenir violent, parce que moi aussi, hein, ça m'arrive d'avoir envie de sortir le lance-flamme et de cramer tout le monde, quoi. Mais c'est, enfin, je pense pas que ce soit une solution sur le long terme. Et comme c'est un truc d'endurance, on a dit, voilà.
Objectif long terme.
Ouais.
Du coup, j'ai l'impression que dans ce que tu racontes, tu trouves ton équilibre entre sensibilisation et action, en fait.
Ouais. Ouais. Alors, en fait, c'est ça. De par mes anciens métiers, je pense que la communication, c'est un truc pour lequel je m'éclate à communiquer. Et donc, créer des contenus, ça me plaît énormément et j'en ai besoin. Et je sens que la transmission... Enfin, il y a beaucoup de choses à faire encore dessus. Et moi, je m'éclate à inventer des formats un peu plus rigolos. Mais je veux aussi sortir de ce truc-là. Parler, c'est bien, mais faire, c'est mieux. Et donc, il faut que je trouve un équilibre là, cette année. Parce que l'année dernière, j'ai fait quand même énormément de vidéos. Et donc, j'ai fait du bénévolat et j'ai jardiné, mais moins que quand j'étais dans ma reconversion. Où là, j'étais vraiment dans la pratique, 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 pratique. Et donc, cette année, j'aimerais bien trouver un bon entre-deux. Et ça passerait par... être vraiment ancré dans un lieu. Parce que c'est vrai que la Green Guérilla, bon, t'en fais dans l'espace public, mais c'est très vite... c'est rare que ça perdure dans le temps. Donc ce serait peut-être trouver un lieu ouvert au public, mais plus protégé, on va dire, pour que ça existe plus longtemps. Mais enfin, ouais, je suis entre les deux, là, en ce moment.
Juste quand tu dis ça dure pas, c'est-à-dire que c'est dégradé ou c'est enlevé par les autorités ?
Les deux. T'as vraiment les deux. Parfois, c'est la mairie qui va juste raser le truc sans te consulter parce que de toute façon, ils savent pas qui a fait ça. Et puis après, il y a les dégradations au quotidien par les gens juste qui passent et qui s'en foutent. Après, il y a vraiment un truc de sensibilisation à faire. Hein, et puis aussi, moi, à chaque fois, ce que je conseille, c'est que quand tu choisis ton spot, il faut qu'il soit proche de chez toi pour que tu puisses venir l'entretenir régulièrement, que tu puisses aussi entretenir une sorte de proximité avec les commerçants, par exemple, qui sont juste à côté, qui pourraient venir aussi, eux, entretenir. Enfin, tu fais un truc un peu collectif. Mais oui, comme c'est illégal, parfois, hein, c'est officialisé par les mairies. L'idée, c'est pas d'être en guerre contre les pouvoirs publics. C'est juste d'amorcer des initiatives sans les attendre. Et après, venir les voir en disant « Regardez les gars, c'est quand même pas mal ce qu'on a fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on le garde ?» Et parfois, ça marche.
Et est-ce que tu sais ce que tu risques selon le type d'action que tu fais ? On parlait tout à l'heure de tag en mousse. Je sais que, par exemple, un vrai tag, il y a des amendes. Enfin, c'est interdit, il y a des amendes. Qu'est-ce que tu risques quand tu tagues un mur en mousse, quand tu commences à récupérer, je sais pas, un espace pour y planter des trucs ?
Alors, on l'a écrit dans notre bande dessinée, mais je n'ai plus les chiffres. En tout cas, c'est considéré comme de la dégradation d'espace public. Donc, c'est à hauteur de plusieurs milliers d'euros. Hein. On est sûr. Après, dans les faits, quand les flics passent devant nous, c'est plutôt bienvenu. Au contraire, ils sont curieux, ils se demandent ce qu'on fait. Mais pareil, on n'est pas habillé avec des cagoules et
on plante du cannabis en plein jour.
Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, franchement, c'est très toléré, c'est voire encouragé dans les faits. Mais aux yeux de la loi, c'est là où c'est absurde et il va falloir que les choses changent. C'est que c'est considéré comme de la dégradation. Et oui. Après, pour revenir sur ce truc du graphe, j'en ai discuté avec certains graffeurs en leur disant « Putain, mais les gars, ça vous fait pas chier de passer une journée entière à faire un graphe de ouf et puis de prendre le risque que le lendemain, il soit repeint, soit recouvert par un autre artiste, soit par les autorités. » Ils me disaient « Mais c'est pas c'est, moi c'est pas ça qui m'intéresse, c'est vraiment le plaisir de le faire là maintenant, l'instant présent, et puis la photo aussi qui en résulte, ce souvenir en fait du truc. Et ça, j'essaye aussi de le garder en tête, c'est que au final, on s'en fout que le jardin perdure. Enfin, si, tant mieux si ça perdure, mais ça, c'est du bonus. L'idée de départ, c'est d'abord de faire, de montrer aux autres, du coup, parce, dans l'espace public, que c'est possible. Et ensuite, bah, c'est l'effet toile d'araignée, mais le résultat, c'est voilà, c'est du bonus.
On parlait tout à l'heure d'écologie, d'urgence et du fait que c'est pas toujours un combat dans lequel on pense fun quand on s'engage, mais il y a une autre dimension à ça, et d'ailleurs c'était Julien qui en parlait dans l'interview que tu as fait sur son projet Wings of the Ocean, puisque lui du coup son action de dépolluer les océans, il disait c'est pas clivant, parce qu'il y a plein de gens, quand tu parles de végétarisme, tu parles de réduire sa consommation, de ceci ou cela, tout de suite il y a débat, dépolluer les océans, tout le monde est pour, personne n'est contre. Est-ce que toi, avec ton mode d'action, est-ce que tu partages le même constat, ou est-ce que finalement faire pousser des légumes, faire pousser des fleurs, c'est clivant aussi?
Alors quand tu dis clivant, ce serait tu t'entends par là que ce serait accessible à juste une catégorie de personnes?
Non, plutôt qu'il y ait des gens qui viennent te dire mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas ça qu'il faut faire, on n'a pas besoin de faire des espaces verts, on a besoin de faire des barricades et de renverser Total, enfin je sais pas. Ce que lui disait, c'est que le type d'action qu'il a choisi, le fait de venir dire je vais prendre un voilier, je vais aller dépolluer les océans du plastique, il n'a pas rencontré de gens, de quelque milieu que ce soit, pour lui dire bah non, c'est pas pris haut dans l'agenda militant, par exemple.
Alors dans le milieu militant, non, au contraire, c'est très salué, et il y a parfois des actions de Green Guérilla qui ont été faites durant des manifs, par exemple, et je pense à Extinction Rebellion, par exemple, avec laquelle moi je suis en lien, et on a essayé d'imaginer des choses. Donc non, au contraire, ça pourrait justement être des sortes de happening supplémentaires à ce type de manif, d'action. Par contre, là où ça pourrait être clivant, c'est qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord sur l'aspect désobéissance civile, en disant bah c'est pas sur la loi, c'est pas autorisé, donc de quel droit vous vous réemparez de l'espace. Donc c'est en ça, mais moi pour moi c'est les vieux cons un peu réac qui sont comme ça, et encore une fois, si on attend que les lois changent, pour moi ça va dans l'autre sens. C'est quand les citoyens se révoltent contre quelque chose que les lois changent. Je veux dire, l'histoire du droit de vote des femmes, il a pas changé parce que juste les mecs se sont dit ah mais comme oh on a oublié, c'est peut-être qu'on devrait changer les choses quand même. Non, c'est parce que voilà, il y a eu des révoltes. Je crois sincèrement au pouvoir de la désobéissance civile pour faire bouger les choses. Et non, c'est pas du tout clivant dans le milieu militant. Et j'ai même certains amis qui sont, par exemple, je pense à une qui s'appelle Orlane et qui me disait, qui est très engagée au niveau écologie. Elle est dans le minimalisme, le zéro déchet. Elle a même plus de frigo chez elle. Et elle me disait, voilà, moi j'ai l'impression d'être allée au bout de ma démarche personnelle. En termes d'écologie, et je me sens toujours impuissante, toujours autant impuissante face à ce qui se passe. Et moi, les manifs, ça me parle pas, parce que j'ai l'impression que ça sert sans servir, qu'on nous entend pas. Et elle me disait, quand j'ai découvert ce que tu faisais sur la Green Guérilla, ça m'a vachement parlé, parce que c'est pour les autres, c'est très altruiste, hein. Tu fais ça pour la communauté, bon, tu fais ça pour toi aussi parce que c'est kiffant, hein, de jardiner, mais le résultat c'est que c'est pas pour ton jardin à toi secret, c'est pour la communauté. Et puis, putain, là je me suis sentie j'ai senti que ça me parlait parce que j'agissais pour le collectif, mais j'agissais, j'étais dans une, elle avait l'impression que c'était beaucoup plus impactant que de juste marcher dans la rue. Voilà, donc ça peut être une autre solution pour militer. Mais pour moi, la Green Guérilla, c'est un outil comme un autre, en fait. Il y en a plein d'autres.
Ouais, toi, tu ressens pas ce truc de... cette frustration, en fait, d'avoir l'impression de pas toucher assez de gens ou de pas avoir un impact suffisant, en quelque sorte. Tu ressens pas trop cette impuissance grâce à ce que tu fais actuellement?
Alors, ça dépend les jours.
hier j'étais complètement déprimée et du coup je me disais que la vie ne servait à rien et que ce que je fais c'est nul et que ça sert à rien et tout ça, et donc oui il y a des jours où je pense que ce que je fais ça sert à rien, et puis il y a d'autres jours où en fait le pouvoir des réseaux sociaux hein, quand même hein, est puissant, et quand je reçois des messages de gens qui me disent bah putain en fait grâce à tes vidéos, grâce à ta BD bah je me suis lancée, j'ai installé un compost dans mon immeuble, ou j'ai balancé des bombes de graines, enfin tu vois là en fait tu te rends compte du réel impact de ton boulot, et ça porte énormément. Et c'est là où à chaque fois je me dis ouais, quand même communiquer sur ce qu'on fait c'est très important, parce que faire les choses dans son coin c'est bien, mais quand tu les montres, quand tu donnes exemple de toi, tes expériences, c'est puissant, parce que pour moi c'est vraiment l'effet toile d'araignée quoi. Il y a ce truc où les gens se disent ok, mais en fait si elle peut, moi je peux faire. Il y a ce truc d'identification aussi. Moi, dans mes vidéos, je montre mes fails, je montre quand ça foire, quand j'y arrive pas. Et donc, je pense que les gens peuvent aussi sortir de ce truc-là. Ok, c'est pas grave si ça foire, je vais essayer quand même.
C'est cool, non, parce que c'est un truc que je pense beaucoup de personnes peuvent ressentir. Parce qu'il y a plein d'actions qui sont à l'échelle individuelle ou qui sont à l'échelle très locale. Et je trouve que justement, on ne perçoit pas assez la dimension politique de ce qui est local et le pouvoir que ça a, en fait.
Tout à fait. Après, tu vois, par exemple, la Green Guerilla, ça peut être autant balancer ses pépins de pommes par la fenêtre quand tu es sur la route et tu vois des étendues de pelouse où il n'y a rien. Moi, j'ai fait ça à Noël et franchement, c'était drôle à faire. Et en même temps, c'était hyper politique, mais c'était drôle. Enfin, tu vois, il y avait ce truc où c'était une toute petite action à la con, mais c'est de la Green Guerilla au final. Donc ça, c'est une petite chose. Mais si tu vas de plus en plus dans ton engagement autour du jardinage dans la rue et tout ça, tu peux aller jusqu'à un jour investir une ZAD, donc zone à défendre, et où là, tu luttes pour de vrai contre la bétonisation des terres agricoles. Et là, on est sur un gros engagement collectif, qui est hyper fort aussi. Mais ce que j'aime bien dans ce mouvement, c'est que t'as tous les degrés aussi d'action. Et tu peux juste aller planter trois fleurs sur un rond-point, comme monter un vrai collectif, voire une asso, et investir un lieu, quoi, une friche.
La ZAD, c'est un truc que t'as déjà fait, toi ?
Alors non. Je me tiens au courant de certaines zones. Mais j'ai pas encore franchi le pas. J'aimerais bien cette année aller au moins filmer une ZAD et qu'on sorte un peu justement des clichés que c'est que des hippies anarchistes qui gèrent ce genre de trucs. Non, en fait, en général, c'est surtout des habitants du coin qui flippent de voir plein de terres complètement bétonisées. Et bétonnées, bétonisées, on sait pas. On continuera. En tout cas, voilà, c'est souvent des gens qui sont très très proches en fait de leur terre et qui la voient disparaître et qui veulent pas quoi. Et donc c'est vraiment des mouvements citoyens quoi. Et moi j'ai vraiment envie d'insister sur ce truc là, c'est que c'est comme les mouvements de désobéissance civile. Rosa Parks, c'était une petite meuf qui sortait de nulle part et on n'est pas obligé d'être un grand activiste depuis 10 ans syndiqué etc. pour lancer un mouvement quoi. Au contraire, je pense que c'est même et ça, dans le bouquin « Comment faire tomber un dictateur », ils le disent aussi, c'est même plus facile en termes d'identification de se dire que c'est le petit vieux papy du coin qui avait rien demandé, mais qui est là, que voilà, que de se rapprocher de quelqu'un qui a 15 ans de formation politique derrière lui.
Moi, c'est un truc que j'ai ressenti comme forme d'impuissance au niveau local, où j'ai vu dans le petit patelin d'où je viens là pendant les vacances par exemple des bords de route qui étaient avant un peu en jachère quoi, et qui avaient été recouverts de gravier pour élargir la route, et en fait franchement ça m'a fait mal au cœur, parce que avant là il y avait des coquelicots qui poussaient et j'adore ces fleurs, et en plus tu peux même pas en faire des bouquets des coquelicots parce qu'ils meurent immédiatement après que tu les aies cueillis, et j'étais genre mais qu'est-ce que j'aurais pu faire moi, alors que j'habite même plus ici, tu vois, c'est là où vivent mes parents, mais moi, j'y suis pas au quotidien. Maintenant, je suis à Paris au quotidien. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour qu'ils ne bétonnent pas ces bords de route, quoi ?
Alors, je pense que tu peux te former en association, ou en tout cas en groupe de citoyens qui vont... Alors, ça peut commencer par une pétition, par exemple, participer à des réunions d'information dans la mairie et dire « bah non, nous, on n'est pas d'accord, pourquoi vous faites ça ?» et construire un argumentaire collectif. Et ouais, donc moi, en fait, à chaque fois, c'est essayer de se rassembler pour faire entendre sa voix. Ouais, donc sous forme... d'assaut, peut-être. En tout cas, vraiment travailler avec eux et leur expliquer les avantages et les désavantages de tout ça. Et si c'est déjà fait, bah, c'est ensuite peut-être lutter contre et, enfin, en tout cas, exprimer son désaccord en continuant d'aller balancer des bombes de graines. Parce que sur le gravier, il y a quand même toujours un peu d'humidité et de terre en dessous. Donc, il peut y avoir des choses qui repoussent et ça va les emmerder.
Je note ça pour mon prochain passage en Deux-Sèvres.
Dans voilà. Au moins leur mettre des bâtons dans les roues, quoi. Un minimum.
Non, mais je pense qu'en plus, et là, on refait le lien avec la politique, c'est que ça va bientôt être les municipales. Et ce genre de petits trucs, enfin, de cette politique de la ville, en fait, tout simplement, c'est important de se rendre compte qu'on a effectivement le pouvoir de l'influencer. Surtout quand on est dans des petites villes comme ça, des petits villages. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que je voulais savoir moi-même comment faire. Donc j'espère que ce conseil servira à d'autres gens.
Ouais.
Mais surtout que si ta route a été élargie, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont, au fil des ans, se sont plaints à la municipalité pour que la route soit plus large, et qu'il y a très peu de gens qui sont allés dire à la mairie que les coquelicots c'est joli et ce serait bien de pas les éradiquer.
Ne laissons pas trop de place aux chiens. Ouais.
Je ne sais pas.
Après, ça me fait penser à une initiative qui m'a beaucoup touchée cette année. C'était une rencontre avec une dame qui s'appelle Frédérique Soulard à Nantes, qui est conteuse et qui écrit le nom des plantes au sol, le nom des plantes sauvages. Donc là, j'entends vraiment les invasives qui sortent des fissures, des murs. Et donc, en général, les mairies font tout pour les éradiquer, pour que ça fasse propre. Et donc, elle a une manière très poétique de les mettre en lumière, donc vraiment en écrivant leur nom. Et je trouve que c'est pareil, c'est une petite action. Mais elle a eu quelques buzz sur Internet en mettant les photos de ses actions. Et donc c'est là où le pouvoir des réseaux sociaux il est puissant, c'est que oui, c'était peut-être une pauvre plante qui a été ensuite éradiquée, enfin j'aime pas ce mot, il est vraiment violent quoi, mais
désherbée.
De son action reste cette photo et ce témoignage, et donc du coup des idées pour d'autres. Et donc pour moi, écrire le nom des plantes au sol, ça fait partie des moyens de les faire exister, de montrer qu'elles sont là. Alors si en plus t'expliques leurs propriétés médicinales ou comestibles, parce que la plupart du temps c'est le cas, c'est puissant aussi quoi. Donc il y a ces petits mots, c'est poétique aussi, hein. C'est un peu du land art quoi, mais je trouve que c'est des super moyens aussi de détourner les trucs et de vraiment de réinvestir du vivant quoi.
Est-ce que t'as eu des moments de découragement? Des moments où tu t'es dit oh, c'était quand même plus confortable la pub.
Alors jamais pour la pub, genre jamais sur l'aspect confort, jamais, parce que alors oui, j'ai fait un an dans une agence de pub, mais auparavant je cumulais les jobs, j'en ai eu jusqu'à 3-4 en même temps, et donc ce truc de précarité, de jamais trop savoir si je vais avoir un salaire décent et tout, c'est pas quelque chose qui m'a angoissée dans mon changement de vie. Par contre, c'est sur l'utilité de ce que je fais, où là, oui, clairement, mais encore, comme je vous disais, hein, hier, j'étais au fond du trou et je me disais que ce que je faisais était nul. Enfin, en tout cas, ça servait à rien, que de toute façon, on va mourir, donc de toute façon, j'ai dans ma phase émo. Et donc oui, c'est un combat de tous les instants, de garder le cap et de se dire qu'en fait, il n'y a pas de petites actions, l'important, c'est vraiment de faire et vraiment continuer de faire. Et même si ça... Enfin, il n'y a pas de petits impacts non plus. Je pense que... Voilà. Mais c'est une vraie discipline. Et moi, pareil, comme toi, Esther, j'évite de regarder trop les infos parce que je sais que je suis hypersensible et ça peut vraiment me paralyser. Donc, comme je sais ça, j'évite... Alors oui, je me coupe de pas mal d'infos du coup, mais c'est une manière pour moi de me protéger pour continuer d'agir quoi. Et en fait, je me dis que quoi qu'il arrive, on le sait que c'est la merde quoi. Et je trouve que c'est vraiment un moyen aussi, et c'est pour ça que je trouve que les journalistes ont un vrai pouvoir là-dessus, quoi, de nous faire agir ou pas. Il doit y avoir un temps de révolte, on doit se sentir révolté face à ce qui se passe, mais si à côté de ça on montre pas les solutions et les gens qui ont décidé de prendre à bras le corps le problème, bah y a rien qui se passe, quoi. On est juste figé sur place. Et je peux faire partie de ces gens-là parfois, donc je sais à quel point ça doit être vénère pour des gens qui sont encore dans des boulots qui leur conviennent pas. Ou moi j'ai déjà ce luxe incroyable de faire ce que je kiffe. C'est une chance, c'est pas une chance parce que je me suis fait chier à ce que ça arrive, mais en tout cas c'est du luxe. Donc ouais, non, c'est pas tous les jours. Le monde des bisounours, et il y a vraiment ce truc de faire gaffe à pas prendre toute la misère du monde sur les épaules, parce qu'on peut avoir tendance à ça, à vouloir tout bien faire, et alors que non, moi je merde encore aujourd'hui, je me suis acheté une paire de bottines pendant les soldes, et chaque jour je regarde cette paire de bottines en me disant putain les soldes, quoi, je me suis fait couillonner, donc Et encore une fois, ça c'est mon truc, c'est à mon échelle. Il y en a d'autres pour qui ça va être, je sais pas, de plus utiliser du tout de plastique. Enfin, chacun son combat, quoi.
Mais comment tu fais pour pas te décourager ?
Alors, je ne regarde pas les infos, premier truc. Alors, attention, hein, c'est cliché, mais j'essaie de faire du yoga au moins une heure par semaine. En fait, non, alors, le yoga, non, on pourrait juste apprendre à respirer. Juste respirer, souffler un peu. Ouais, ça c'est important, je pense. Donc faire des exercices de respiration. Il y en a des tonnes sur YouTube si vous êtes en panne de. Si vous ne savez pas comment respirer, allez regarder un tuto sur YouTube. Il y a ça. Et puis j'essaye au minimum quand même. Alors j'ai la chance d'avoir un bel endroit où j'ai plein de plantes chez moi. Mais c'est. Me reconnecter au moins une fois par jour près d'une plante. Donc ça peut être aller juste regarder sa petite succulente qu'on a sur son bureau, ou aller carrément marcher dans un parc. Enfin, juste se rapprocher au moins une fois par jour du vivant.
Je partage ton analyse sur le rôle des journalistes. On y reviendra, parce qu'avec Esther, on a l'intention d'aller voir quelques journalistes aussi dans le cadre de ce podcast pour parler de la dimension très politique d'informer. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, j'ai juste une objection en forme de réflexion qui est, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est plus de donner l'information, parce que beaucoup de gens sont en mesure de donner de l'information, mais c'est de retrouver un lien de confiance, en fait, avec les gens qui nous lisent ou qui nous écoutent ou qui les regardent à la télé. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un lien de confiance qui est rompu et qu'on peut raconter toutes les belles histoires et montrer les belles solutions. Je ne suis pas persuadée que ça passe encore. Je trouve que Mélanie Laurent et Cyril Dion, avec leur documentaire « Demain, le film », ont réussi à toucher et à inspirer beaucoup plus de gens que, enfin, je ne sais pas combien de journalistes et de magazines et de reportages basés sur le même principe, en réalité.
Justement, en réalité, moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des courants journalistiques qui sont le journalisme de solution, le journalisme positif, etc., qui sont, à mon avis, trop peu connus, déjà par le grand public, mais aussi trop peu reconnus par la profession elle-même, où c'est beaucoup plus valorisé de dénoncer quelque chose qui ne va pas que de pointer quelque chose qui est un changement positif, ou voilà. Et je pense que ok, il y a un lien de confiance à recréer, mais que ça peut contribuer à recréer ce lien de confiance. Parce que, en fait, les personnes comme toi, Ophélie, qui arrêtent de s'informer parce que c'est trop déprimant, bah, elles ont aussi perdu ce lien de confiance parce que, juste, c'est plus supportable à long terme.
Au-delà de déprimant, c'est effectivement paralysant. On enregistre cet entretien, là on est le 15 janvier, on a quand même commencé l'année avec une menace de troisième guerre mondiale, de guerre nucléaire entre les États-Unis et l'Iran. En plus, quand on voit qui est à la tête des États-Unis, personne n'est rassuré sur sa capacité à prendre des décisions rationnelles. Donc en fait, moi j'ai vu ça et je me suis coupée, alors que c'est vraiment mon métier en ce moment de m'informer et de relayer de l'information. Je me suis coupée pendant 7 jours des médias en me disant il faut que j'attende de voir ce qui va se passer entre États-Unis et Iran. Et pour le coup, c'est pas 24 heures chrono, donc je vais pas le suivre comme un feuilleton haletant parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Et je retiens encore mon souffle parce que donc là on en est à un avion a été abattu, l'Iran a reconnu que c'est eux qui avaient abattu l'avion. Enfin, je veux dire on en est où on en a un moment. Je suis sûre que c'est des épisodes que qu'on étudiera dans les cours d'histoire d'ici quelques décennies. Comme nous on étudie la crise de Cuba en disant putain ils ont eu chaud.
Ouais. Non c'est sûr. Après, quand tu dis que c'est militant de parler des initiatives positives, pour moi non, ce serait plutôt objectif de mettre autant du bien, enfin du positif que du négatif dans un sujet. Enfin, je sais pas, j'y vois pas que forcément un acte militant dans le fait de montrer ce qui se passe de bien aussi dans le monde. Qu'est-ce que
non, c'est une question de choix d'angle, mais en fait, ça rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure sur le système capitalistique appliqué à des schémas qui ne conviennent pas. Et ben, ça marche pour le domaine de l'information aussi. On sort quand même d'une expérience, nous, sur un magazine web, comme plein de magazines web, comme plein de médias web qui fonctionnent à, et ben, il faut générer de l'audience. Donc, on le sait au bout d'un moment, qu'est-ce qui génère de l'audience? On le sait très bien que quand on fait une news sur, oh, regarde une chaîne YouTube, Ophélie Tamernature, c'est trop bien, fait pousser des légumes, c'est génial, ça marche vachement moins bien qu'une énième histoire de « Oh, cette femme s'est fait, a été agressée dans la rue, voyez comment elle a répondu à son agresseur, et ça fait un carton. » Et d'un côté, il y a de l'indignation et de la colère, de l'autre, il y a uniquement du positif. Ça marche pas, en fait, sur les algorithmes des réseaux sociaux, ça marche moins bien.
Tu voudrais dire qu'on aime bien, au final, se complaire un peu dans nos histoires de merde et dans...
Pause alarme. Oui, on enregistre dans les conditions du direct, hein, il y a des ambulances.
Non, enfin, dans les histoires de merde, j'entends par là, dans le négatif, dans les histoires à sensation, dans...
Tu parlais tout à l'heure de dissonance, moi je pense qu'il y a une grande dimension liée à ça, c'est-à-dire que quand on me relate, eh bien, effectivement, une histoire de Troisième Guerre mondiale, j'y peux rien. Donc, quelque part, je n'ai pas de culpabilité, je n'ai pas de responsabilité. Quand on me montre une personne lambda qui décide de changer de vie ou juste de changer d'habitude de consommation, tout d'un coup, ça me renvoie à mon propre pouvoir, à mes propres responsabilités, à ma propre impuissance aussi, pour plein de gens qui voudraient changer et n'ont pas les moyens, tout type de moyens, hein, temps, ressources intellectuelles, physiques, ce que tu veux. Je pense que ça provoque une espèce de dissonance et tu préfères te mettre à distance de ça et tu vas pas vers ce genre de contenu, tu ne consommes pas ce genre de contenu. Et on a compris à quel point ça ne marche pas de parler de consommation de médias et d'information. Mais
alors sur YouTube, j'ai vraiment une galère en termes de visibilité. Et je me pose vraiment des questions là-dessus. Mes contenus ne remontent absolument pas et ils sont même souvent démonétisés par YouTube.
Tes contenus sont démonétisés.
Voilà,
par
tout
YouTube.
À fait. Alors, je pense que c'est parce que j'emploie des mots comme guérilla, par exemple. Et du coup, tout de suite, on me dit que mon contenu est limité. En fait, il faut que tu aies ton compte abonné premium, je sais pas quoi, pour voir, pour que mes vidéos soient monétisées. Mon contenu n'intéresse pas les publicitaires. C'est vrai. Hein. Alors, quelque part, je devrais être flattée, hein, c'est sûr. Mais tu vois aussi que dans les algorithmes, mon type de contenu n'est pas du tout mis en valeur, quoi. Parce que je vends rien, au contraire. J'incite à la déconsommation.
Tu clashes pas assez,
Je clash pas assez, putain. Mais j'aimerais me faire clasher par un policier qui est pas d'accord que je fasse un tag en mousse. Voilà, là, il y aurait du clic.
Non mais j'avoue je suis choquée parce que autant je sais et surtout pour être sur YouTube moi-même que notamment des contenus qui parlent du corps des femmes, de la manière de vivre nos sexualités etc. sont systématiquement démonétisés ou quasi systématiquement démonétisés.
Eh bien, bienvenue dans mon monde.
L'écologie aussi.
Du
et
côté
ça,
des plantes,
je ne savais pas.
C'est pareil. Alors moi j'ai vraiment une vision assez activiste et politique hein, d'en parler. Donc c'est sûr que je suis pas là en train de vous montrer comment faire des couronnes de fleurs, mais c'est pas très écolo en fait les couronnes de fleurs en plus, je me rends compte. Bref. mais voilà, c'est sûr que je galère au niveau des vues, c'est clair.
Mais t'es pas non plus en train de faire du contenu qui incite
à la violence, non.
Voilà,
pas vraiment, non.
C'est assez incompréhensible. Enfin, vraiment, quand on parle d'activisme, de militantisme, il y a des modes d'engagement et des modes de lutte qui sont incroyablement plus violents que de se réapproprier des espaces publics pour les reverdir.
Bien sûr, mais sur YouTube, quel annonceur ça intéresserait, mon sujet? Bah, elle a pas des masses, quoi. Parce que, en fait, moi, mon modèle, il est compliqué aussi. Je fais de la création de contenu pour peu de projets. Je mets très rarement en valeur des produits. Donc, en fait, c'est sûr, je joue pas le jeu de l'influencing classique. Donc, c'est compliqué, c'est sûr.
Ouais, je suis complètement d'accord avec cette analyse. Et d'ailleurs, je me demandais tout à l'heure si tu étais d'accord de nous dire comment
je vis. Ouais. Bien sûr,
de quoi tu vis ?
Avec plaisir.
Qui te paye ?
Alors, en tout cas, pour ce qui est de l'année 2019, parce que là, on est en janvier, on va voir hein, de quoi je vis. Mais en janvier, donc l'année dernière, j'ai vécu essentiellement de mes créations de contenu vidéo. Et donc, j'ai fait deux grosses collabs, notamment avec Too Good To Go, qui lutte contre le gaspillage alimentaire, et puis 18h39, qui est le média lié à Castorama, et pour qui j'ai fait pas mal de tutos bricolage, jardinage. Ce qui est génial à chaque fois, c'est qu'on me laisse carte blanche pour mes contenus, et donc je m'éclate. J'ai fait aussi des choses pour Enercop et La Ruche qui dit oui. Et j'ai aussi reçu une subvention du Centre National de Cinéma pour ma série sur la Green Guérilla. Donc ça a été une grande nouvelle, et je suis hyper heureuse qu'une telle institution soutienne un sujet comme le mien, alors que les mecs avaient très bien compris que j'étais pas très suivie. Donc super nouvelle. Et puis j'ai eu aussi des droits d'auteur en tant que co-auteur de la bande dessinée. Et ensuite, c'est des petites choses. Donc j'anime régulièrement des ateliers autour du jardinage pour les nuls. Et puis je participe à des conférences, j'écris des petits articles de temps à autre. Donc ça, c'est voilà. Et puis de temps en temps, mais j'en ai pas eu assez l'année dernière, des contrats, des petits contrats, donc d'entretien de plantes, de potagers. Et ça, c'est selon les projets, c'est de l'associatif ou du privé, mais voilà, ça va être des grandes campagnes de plantation, par exemple, sur laquelle je suis réquisitionnée. Voilà. Et cette année, pareil, ça va être très aléatoire. Je compte sur ça, sur la création de contenu encore. Donc, je vais voir avec qui j'ai envie et où on me propose de bosser. Et j'aimerais avoir aussi un lieu où je puisse concrètement faire beaucoup plus régulièrement des ateliers et faire pousser des trucs. Après, j'ai bien compris, et ça, on nous l'a aussi pas mal répété en formation, que tu ne peux pas vivre que d'une seule activité. Je pense que ça s'applique à plein d'autres métiers, mais en tout cas, dans le monde de l'agriculture, vivre uniquement de sa vente de légumes ou de plants ou de fleurs, c'est pas suffisant. La plupart du temps, ils vont faire des ateliers, des formations en plus, créer aussi des contenus. Et moi, ça me convient bien parce que j'aime avoir tous ces aspects-là dans mon métier. J'en ai même besoin. Mais t'es obligé t'as aussi pas mal de choses en produits transformés. T'en as qui vont se lancer dans les confitures, les choses comme ça, parce que ils arrivent vraiment à valoriser leurs produits, à mieux les stocker aussi. Donc, faut réfléchir à ces trucs-là. Et par exemple, là, ça fait presque 3 ans que j'ai changé de vie. Je suis loin d'avoir trouvé une stabilité ou même un modèle. Là on est encore dans du précaire, dans du très instable. Après, c'est la vie de freelance, hein. Ça, c'est sûr que je l'ai choisi. J'aurais pu rempiler sur des. En fait, j'ai été responsable de certaines fermes urbaines, donc j'aurais pu me relancer là-dedans. Mais je kiffe tellement bosser seul que. Enfin, bosser seul. Bosser pour d'autres, mais à mon compte, que j'ai du mal à me réintégrer dans un projet en tant que salarié.
D'accord. Donc, on arrive à la fin de l'interview. Et j'ai 3 trucs que je voudrais te demander. D'abord, est-ce que tu as une personne qui t'inspire à agir comme ça ?
Je vais faire un petit big up à une copine qui s'appelle Marion et qui a monté un projet qui s'appelle Les Sourciers, qui a une chaîne YouTube aussi notamment. Alors, elle est à Donf dans l'hydroponie. Alors moi, c'est une méthode de culture qui me parle pas à 100%, mais je trouve ça hyper intéressant, la manière dont elle transmet tout son savoir. Elle a monté sa ferme en hydroponie avec son compagnon dans le Gers. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont vraiment trouvé un modèle où ils arrivent à fournir plein de restaurants dans la région. Ils montent des formations pour transmettre leur savoir. Et elle continue à créer des contenus, donc vidéo, elle écrit un livre en ce moment, elle a 2 enfants Et c'est une fille de mon âge et je la trouve, elle est rayonnante. Vraiment, c'est quelqu'un qui est tellement enthousiaste à l'idée de partager tout ça. Et elle me nourrit beaucoup. Enfin, son énergie me nourrit beaucoup. Vraiment, c'est quelqu'un que j'admire. Et c'est ce truc de jamais lâcher son enthousiasme, en fait. Parce qu'on sait que, voilà, c'est pas parfait, que c'est pas machin, mais elle est sans cesse dans ce truc de, ouais, mais on va mieux faire. Et ouais, oui, je transmets. Et donc, ouais, Marion, donc la chaîne YouTube, c'est Les Sourciers. Alors, on est sur un sujet vraiment de niche. Hein. Mais...
C'est quoi l'hydroponie ?
Alors, l'hydroponie, c'est une technique de culture où, en fait, ta plante baigne dans une substance qui est faite d'eau et puis d'engrais liquide. Donc, en fait, ta plante ne pousse pas dans la terre. Elle est vraiment dans cette espèce de solution qui est une technique assez intéressante pour justement investir des lieux comme des toits. Où en fait c'est très compliqué de ramener de la terre sur un toit, c'est parfois beaucoup trop lourd, etc. C'est des systèmes qui sont très légers à mettre en place, et puis c'est un système qui est très productif aussi. Après, moi, c'est dans les solutions nutritives et tout ça où je suis pas... Enfin, il y a de la recherche encore à faire dessus, et puis on est sur un contrôle quasi à 100% de la plante. Et là aussi, moi, pour moi, on sort du côté un peu spirituel d'ancrage dans la terre, etc. Mais il n'empêche, c'est une technique qui est super intéressante et eux travaillent vraiment à développer la chose pour que ce soit le plus éthique possible. Donc vraiment, et puis c'est la personne en elle-même, vraiment Marion, c'est quelqu'un de rayonnant et je trouve ça tellement précieux, en fait, les gens comme ça, encore de nos jours, putain, on a de quoi être déprimé. Et d'avoir des énergies pareilles, c'est précieux.
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait faire pareil que toi ?
Ça allait vraiment être ma dernière question, c'était, je suis débutante en guérilla green.
Alors pour la guérilla green ou pour se reconvertir ?
Les deux.
Voilà.
Les deux. On va même pas choisir, on va faire les deux. Je pense que tu peux commencer par la partie reconversion. Conseil à quelqu'un qui écouterait cet entretien-là et termine, on a quand même à plus d'une heure d'entretien, et termine en se disant... Je veux faire comme elle.
Alors, moi, ce qui m'a sauvé la vie, hein, c'est vraiment les bouquins. Vraiment, lire des livres, ça rend vraiment moins con.
C'est parfait, car ma troisième question était « Et quel bouquin tu lui mettrais dans les mains ?»
Ah
mais vas-y.
Ouais, non, vraiment, lire des livres, ça rend moins con. Alors après, il ne faut pas faire que ça, hein, mais je trouve que ça vraiment, ça nourrit beaucoup. Et quand je dis lire des livres, ce n'est pas forcément que des trucs activistes sur l'écologie. Hein. Lire des fictions, ça fait vachement de bien aussi. Ça nourrit vraiment le cerveau. Et c'est quand même moins passif que de regarder des vidéos. Je trouve qu'il y a l'action de lire qui est importante, donc on reste dans une action. Et après, c'est genre juste faites. Mais alors vraiment, hein, c'est vous cassez pas la tête à attendre d'avoir un savoir de malade. Quand j'avais lu un livre sur les incroyables comestibles, qui est un mouvement qui justement aussi veut réinstaurer les bacs de plantes comestibles dans l'espace public. Et donc, il racontait, voilà, souvent les gens leur demandent, mais alors comment vous vous êtes lancé ? Bah, juste on a fait quoi. Enfin, genre, juste en fait, on est sorti, on a pris ce qu'on avait sous la main, genre des râteaux, des pelles, et puis on a commencé à jardiner quoi. Et enfin, faut pas se prendre la tête, hein. Genre, vous êtes t'es avec ton pote, tu te fais chier un dimanche après, mais ben, juste tu prends les trois graines que t'avais chez toi, ou genre une gousse d'ail, une pomme de terre qui avait germé dans ton placard, et tu vas la planter au pied de ton immeuble. Ça commence par ça. Après, oui, la suite se fera. Tu vas rencontrer des assos, tu vas participer à des festivals, des conférences, et là, tu vas rencontrer des gens. Il y a aussi cet aspect-là très important, c'est de ne pas hésiter à aller rencontrer les gens. Ce qui me nourrit le plus, les livres, ça nourrit, mais c'est d'abord les relations humaines. Et donc, si on n'ose pas faire ça tout seul, il faut aller voir des assos. À Paris, je sais que l'association Pépin Production, par exemple, ils montent des pépinières de quartier. Et donc, tous les vendredis, samedi matin, tu peux aller les aider et vraiment avoir les mains dans la terre et faire des choses et rencontrer d'autres gens du quartier. Et donc, vraiment, parler aux gens, rencontrer des gens.
Et du coup, un titre de livre comme ça qui, toi, t'as aidé à mettre la main à la pâte, quelque part ?
Quand j'ai démarré, Solution locale pour désordre global de Colin Serrault, qui est un grand best à avoir dans sa bibliothèque d'écolo. Et puis vraiment, là, ces derniers temps, moi, c'est mon bouquin préf de l'année dernière, Comment faire tomber un dictateur, qui est de... Non mais non, vous irez voir. Mais c'est un putain de bouquin qui donne vraiment envie de faire des trucs et vraiment qui... on se sent capable.
Eh ben, merci beaucoup, Ophélie.
Merci.
Merci beaucoup, c'était passionnant.
Vraiment. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Mais
c'est le but. C'est à peu près le but de l'émission. Donc, on vous tend des micros, on vous écoute parler. Voilà, c'est exactement le concept.
Mais du coup, nos tisanes sont froides. Hein.
Mais... Ah bah moi je l'ai bu la mienne.
Ah oui, elle est clairement. Alors là, elle est finie. Je vais reprendre de la tisane et des cookies vegan. Merci beaucoup. Parce qu'elle a fait des cookies vegan, ils sont tellement bons.
J'ai envie une mama italienne.
On est très bien accueillis ici.
Merci.
Si, on a failli oublier de dire là. Où est-ce qu'on envoie les gens?
Alors, on les envoie.
Tous les gens qui veulent te suivre pour ne rien rater de tes projets.
Alors, on les envoie sur ma page YouTube qui s'appelle Ophélie-ta mère nature. J'imagine que si vous tapez ta mère nature, ça marchera aussi. Et puis sur Instagram aussi, Ophélie-ta mère nature tout attaché. C'est là où je suis le plus active sur tout ce qui est. Les stories, c'est quand même bien. T'es vraiment dans le vif et tu peux montrer un peu les conneries que tu fais au jour le jour. Donc voilà, je suis là.
Merci beaucoup, trop Ophélie.
Cool. Merci. Salut.
Allez la suivre.
Vous êtes un ou une activiste dans l'âme ? Écrivez-nous à tutoconquérirlemonde@gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Activiste est une émission d'interview portrait-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes, sur Instagram @conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly/clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.